Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et leur histoire dans mon salon de thé. Je suis Sarah Le Sage et ravie de vous avoir avec nous. So, pinky up and let's get started. Alors aujourd'hui, je suis avec Zoé, une Alsacienne qui habite dans la région parisienne et elle est psychologue. Alors passionnée de cinéma, de musique et de danse, elle a créé un blog, The UK Binge Watcher, qui est consacré aux films et séries britanniques. Alors forcément, il fallait que je l'invite dans mon petit salon de thé. Alors bienvenue Zoé, bienvenue. Et est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça veut dire The UK Binge Watcher?
Alors le binge watching, c'est une manière de regarder la télé qui consiste à en mettre plein les yeux, plein les oreilles et à regarder, typiquement ça concerne les séries, regarder une saison entière d'une série, à peine même quand elle est sortie, pour être sûr de rien louper, pour avoir tout vu d'une traite. Et moi je l'ai appliqué du coup au UK, puisque ce qui m'intéresse c'est les films, les séries, mais spécifiquement en britannique. Et effectivement j'en consomme beaucoup beaucoup et j'y consacre beaucoup de temps, donc je binge comme on dit, je binge beaucoup de films et de séries UK.
Super. En fait, le mot binge, on l'associe aussi avec la cuisine. En fait, ça vient de là-bas. Parce que binge, c'est quand on mange beaucoup trop de quelque chose. Mais par contre, le produit que tu as choisi aujourd'hui, je pense que ça ne risque pas, mais on va voir. On va voir. Alors, on va commencer par te poser la question, d'où vient ta passion pour la Grande-Bretagne et les séries et films britanniques?
Très honnêtement, cette question, on me la pose beaucoup, beaucoup. D'où ça vient? J'ai pas vraiment de réponse avec certitude, mais par contre, ce que je sais, c'est que très tôt, j'ai commencé à avoir des contacts avec l'Angleterre en particulier, parce que j'ai eu la chance de voyager à un mariage à Richmond quand j'étais toute petite, je devais avoir peut-être 7 ans. J'ai été baignée aussi par la littérature jeunesse britannique, notamment bien sûr le classique Harry Potter, mais aussi le Peter Rabbit.
Ah, de Beatrix Potter.
Exactement, donc. Je pense que cette imagerie comme ça autour de l'Angleterre était présente comme ça tout le long de mon enfance et de ma jeunesse. Et puis après, quand je suis devenue adulte, au gré des voyages, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup. Le pays en lui-même, la langue bien sûr, et puis la culture plus généralement. Et comme j'aime beaucoup le cinéma et les séries, bien sûr, je ne regarde pas que des choses britanniques, hein, je regarde aussi des séries françaises, des séries américaines, comme tout le monde. Mais c'est vrai que ma mère m'a donné un petit peu cet amour qu'elle a du cinéma. Et donc très naturellement, pour finalement continuer un petit peu à nourrir cette passion du Royaume-Uni, le fait de pouvoir regarder ces films, ces séries, s'imprégner de l'ambiance, s'imprégner des accents, s'imprégner un petit peu de tous les marqueurs sociaux qui sont présents dans des films et des séries, c'est venu tout naturellement, tout comme l'envie à un moment donné aussi de le partager avec un auditoire, et donc le fait d'écrire ce petit blog.
Ouais, mais c'est super intéressant. En plus, tu déniches des films ou des séries que j'ai soit pas vu ou que j'avais oublié. Et c'est une excellente source. Voilà, vraiment, j'invite tout le monde à aller le voir. Je vais mettre un lien tout à l'heure. Alors, je sais que c'est compliqué, mais est-ce que tu peux me donner trois séries ou films qui t'ont vraiment marqué? Parce que voilà, il y a un paquet, hein, mais c'est compliqué comme question. Mais...
c'est sûr. J'avoue que c'est un petit peu triché ce que je vais faire parce que il y a deux. Peut-être deux réalisateurs que je vais choisir plutôt que des films. Ils sont très différents et en même temps, je leur trouve des similitudes. C'est Guy Ritchie,
ah bon,
forcément, et Ken Loach.
Ah oui.
J'adore Guy Ritchie, j'adore Ken Loach. Très différents, hein, ils ne sont pas du tout dans le même univers. Ce que je leur trouve en commun quand même, c'est cette envie de parler peut-être d'une autre... D'un autre Royaume-Uni que celui qu'on peut voir peut-être d'habitude à la télévision. On ne parle pas que du Londres chic, branché, vivant, vibrant, voilà. Il y a aussi d'autres populations, d'autres manières de s'exprimer, d'autres problématiques. Et c'est vrai que les deux, ils ont peut-être ça en commun, même s'ils traitent ces sujets-là très différemment, mais on sent qu'il y a cette envie de mettre en valeur aussi... d'autres facettes de la société britannique que, en tout cas pour les étrangers comme moi, c'est pas à ça qu'on associe nécessairement le Royaume-Uni en première instance. Donc, je les trouve tous les deux très intéressants. Et quand même, j'ai fait l'effort de trouver ma série préférée. C'est une série qui s'appelle Brassic.
Ah.
Et Brassic, c'est une série qui met en scène une bande de copains des Midlands, un peu bracassés, un peu foufous, ils font beaucoup de bêtises. mais c'est très très drôle. C'est très drôle, c'est très décalé et en même temps c'est très touchant parce qu'il y a un personnage principal qui est a priori bipolaire et qui souffre beaucoup de sa condition. Donc il y a beaucoup de gags, beaucoup de moments très drôles, de grande camaraderie de cette bande de copains qui se connaît visiblement depuis toujours puisqu'ils habitent dans une petite ville et que je pense que tout le monde se connaît. Mais il y a quand même aussi un petit peu autre chose. Il y a une vraie sensibilité, donc c'est pour ça que j'aime bien cette série. J'aime bien les comédies qui font rire, mais qui racontent aussi quelque chose et qui ont l'ambition de faire transparaître peut-être une problématique ou un sujet qu'on traiterait pas comme ça. Quand on se l'imagine, on se dirait pas, ben, on va traiter ça par le biais de la comédie. Je trouve que c'est toujours ambitieux de faire ça et c'est ça intéressant parce que je pense que ça touche un public peut-être plus large.
Oui, je crois que les Britanniques sont très forts pour traiter ce genre de sujet. Mais dans les deux réalisateurs et la série que tu as choisie, je suis sûre que tu as besoin de mettre les sous-titres, même moi, parce que les accents sont tellement forts qu'on a du mal à comprendre.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'avoue que je me suis l'accent cockney en particulier. Franchement, il faut s'accrocher. Mais alors après, quand ça part en plus en slang, ce parler très particulier avec comment ça s'appelle? Le cockney
Slide,
rhyme.
slang.
Ouais, ça. C'est très imaginatif, c'est très drôle, moi ça me plaît beaucoup, mais c'est sûr que si tu sais pas, tu
Ah
comprends
ouais, mais c'est plus qu'un dialecte, c'est vraiment d'autres mots.
Ah oui, c'est des codes, c'est vraiment des codes.
Ouais. Alors, pour venir à la cuisine britannique, ou la cuisine en général qui figure forcément souvent à l'écran, est-ce qu'il y a quelques moments iconiques autour de la cuisine qui t'ont marqué, soit dans un film ou dans une série?
Alors, il y a moi. Il y a un moment qui m'a marqué, pas forcément pour les meilleures raisons, mais dans le film Babe, qui est un film international, hein, c'est un film anglais, mais je crois que c'est aussi un film américain et australien. Mais dans le film Babe, il y a une scène très particulière où tous les animaux regardent par la fenêtre la famille qui se met à table pour dîner. Et elle a fait un canard et il est magnifique. C'est un très très beau rôti. Et c'est vrai que le rôti, on le retrouve quand même très souvent dans les films et séries parce que ça vient vraiment symboliser ce moment en famille.
Tout à fait.
Et du coup, on sent que c'est un code qui, d'emblée, ça actionne ça dans l'imaginaire du spectateur. On comprend tout de suite si on voit ce rôti, on le voit là dans Babe où il y a les animaux du coup qui sont un peu tristes de voir leur collègue qui est sur la table, le canard à l'orange, qui est magnifique. Mais il y a aussi, on le retrouve dans plein plein de films. Il fait des petites apparitions, ce rôti, que ce soit la dinde, le bœuf.
Ben oui, parce que c'est un plat qui réunit toutes les strates sociales. Voilà, les familles les plus modestes jusqu'à l'aristocratie. Et aujourd'hui, ça existe encore comme le Sunday Roast, dont je parle dans un autre épisode. Mais c'est vrai que c'est un plat qui est à la fois la fête et un symbole de réunir la famille ou des amis autour d'une bonne table.
Et oui, et puis du coup, c'est vrai que quand on pense aussi à quelque chose d'iconique qu'on retrouve comme ça, qui fait fil conducteur dans les films et séries britanniques, j'avais pas pensé tout de suite et après je me suis dit, mais le thé. Et c'est vrai que le thé, moi, ça m'a permis par exemple de comprendre vraiment que le thé, c'était pas que cette espèce de cérémonial qu'on s'imagine, quelque chose de très chic, très sophistiqué. Que le thé, c'est vraiment une boisson populaire. Et moi, par exemple, j'ai vu dans la série Luther, c'est quand même un gros dur. Voilà, il est plein de soucis. Et il est tout le temps comme ça, très, ouais, très 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 dur et un grand gaillard comme ça, mal rasé. Il boit du thé, quoi. Et il boit du thé énormément dans la série.
Oui.
Et on propose le thé aussi, et dans beaucoup de séries policières notamment, on propose le thé, par exemple, à quelqu'un qu'on veut faire parler. Parce que je comprends que c'est un moyen de réconforter et de tendre la main vers l'autre que de lui proposer une tasse de thé. Alors parfois la tasse, elle est un peu ébréchée. Parfois c'est une très jolie tasse d'un beau service à thé. Mais finalement, cette boisson-là, elle vient vraiment marquer comme ça le paysage finalement audiovisuel britannique. Et pour le spectateur qui n'est pas britannique, c'est vrai que ça saute aux yeux.
Mais moi, je remarque quand je retourne en Grande-Bretagne, parce que quand vous allez voir des amis ou même des inconnus ou même un rendez-vous professionnel, la première chose, c'est de vous proposer un thé. Et c'est vrai, le thé aussi, quand on a un choc, quand on se fait mal, la première chose, c'est un thé. Et plus le choc est fort, plus on met du sucre dedans aussi. Vous le trouvez sur tous les chantiers aussi. Je sais qu'en France, on se moquait des hommes britanniques parce qu'ils buvaient du thé. Mais pour eux, l'idée qu'un homme boit du thé, c'était vraiment ridicule. Mais comme tu dis, voilà, ça fait vraiment partie de notre paysage. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, Zoé, mais le temps passe et on n'est même pas arrivé à ton plat. Alors, le produit ou la spécialité que toi, tu as choisi, c'est un peu loin du comfort food, même si c'est délicieux. Alors, tu vas nous dire qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi?
J'ai choisi le cottage cheese. Alors, je disais un petit peu en rigolant tout à l'heure, mais c'est quand même vrai que je suis une très grande et très fidèle auditrice du podcast et que du coup, il y a plein de choses que j'adore dans la cuisine britannique, mais qui ont été traitées par d'autres invités et ça m'a fait très envie d'ailleurs. Et du coup, quand j'ai pensé à quelque chose qui n'avait pas été vu encore dans le podcast, j'ai pensé au cottage cheese parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très typique. Ce qui pourrait ressembler chez nous en France, c'est la faisselle. C'est un petit peu ce qui se rapproche le plus, même si c'est pas pile-poil la même chose. Et effectivement, moi je l'aime beaucoup parce que il est très versatile. On peut en faire plein plein de choses, des choses très simples comme des choses plus élaborées. Et du coup, c'est un produit qui me plaît énormément. Comme beaucoup de gens aussi, j'apprécie son côté diététique parce qu'il n'est pas très gras et qu'il est très très riche en protéines et que ça c'est appréciable quand on fait du sport et qu'on aime bien être vigilant à ce genre de choses. Mais du coup, oui, sans regret, j'ai choisi le cottage cheese parce que je trouve qu'il a plein plein de choses à
Ben,
raconter.
moi, personnellement, je suis ravie parce que c'est vrai que c'est un produit. J'ai envie de dire de mon adolescence, mais qui a été un petit peu oublié pour deux raisons. C'est que, comme tu dis, c'était vraiment associé à des repas diététiques. Et donc, j'ai quelque part des mauvais souvenirs d'une tartine sur un espèce de petit pain sec au seigle, petite biscotte accompagnée avec deux bâtonnets de carottes. Et c'était ça le déjeuner. Donc, pour ça, je n'ai pas gardé un très bon souvenir. Mais à côté de ça, je me rappelle aussi qu'à 15 ans, je crois, je travaillais dans un petit restaurant, un petit café qui est spécialisé dans les pommes de terre en robe de chambre. Et une des garnitures, c'était le cottage cheese avec la ciboulette. Et c'est vrai que c'est très versatile, mais ça a été aussi un peu perdu de vue parce qu'on l'a remplacé par les yaourts. Mais voilà, aujourd'hui, quand même, je crois qu'on peut le trouver encore en France dans certains supermarchés.
Oui, on le trouve dans certains supermarchés. C'est une grande marque de produits laitiers qui le propose. On le trouvait encore, je serais à peu de temps chez Marks & Spencer, bien sûr. Et du coup, je pense que si on le trouve au supermarché, c'est qu'il y a quand même dans le public français des gens qui sont intéressés par ce type de produit-là. C'est un chouette produit, effectivement. On peut s'en servir. Par exemple, tu le disais une biscotte, sur un beau morceau de pain, faire ben, tout simplement un toast, mais avec du coup un beau pain de campagne grillé, par exemple, avec du coup ce cottage cheese qu'on vient assaisonner comme on l'aime. Ça peut être une manière un peu plus traditionnelle, un peu d'échalotes ciselées avec un peu de persil, un peu de ciboulette. On peut aller sur des choses aussi peut-être un peu plus exotiques, un peu plus fraîches, comme par exemple un peu de menthe, un peu de coriandre, quelques graines de sésame. Ça peut être très agréable. Et moi, je trouve qu'il se prête très très bien soit à la cuisine végétarienne, puisque comme il y a beaucoup de protéines dedans, c'est assez intéressant. Mais il va aussi très très bien avec peut-être un jambon de pays, par exemple, pour adoucir un petit peu le sel, ou un saumon fumé, par exemple. Et du coup, c'est vrai que c'est très très intéressant, parce que c'est le goût, bien sûr, mais la texture en particulier. Donc, peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne la connaissent pas, c'est une texture un peu granuleuse. Dit comme ça, c'est pas très appétissant, mais c'est en réalité c'est très très bon,
Oui, ben, ça me fait rire parce qu'il y a une auteure américaine, Elsie Love, qui l'a décrit un peu comme le cellulite. Et c'est vrai que c'est pas très attractif, mais c'est vrai, avec ses petits grumeaux dans le petit lait, ça ressemble un petit peu à ça, bien que c'est bien plus blanche, parce qu'il le blanchit un petit peu pour que ce soit plus appétissant. Et puis on peut mélanger aussi avec des fruits, du miel. C'est vrai que c'est un goût un peu aigre, un peu salé, mais finalement, il n'est pas très imposant comme goût, donc il peut s'adapter à plein de choses. Et ce qui est très intéressant, comme c'est un produit assez bas en matière grasse, il peut remplacer beaucoup de fromage frais dans un cheesecake, par exemple. Il peut remplacer aussi le mayonnaise. Enfin, là où il faut mettre un produit laitier, il peut être une alternative très légère. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Alors, pour plonger notre fourchette dans l'histoire du cottage cheese, c'est le plus simple et le plus ancien des fromages. Dans l'Odyssée d'Homère, le Cyclops Polyphème, le géant borgne, mangeur d'hommes, c'était le premier à fabriquer du fromage quand il transportait le lait de ses moutons dans les panses de ses brebis, et il a découvert qu'ils en caillaient. Effectivement, c'est la chaleur et un mélange d'enzymes qu'on appelle la présure qui fait cailler le lait. Alors, c'est peut-être une légende, mais on trouve quand même des gravures en Mésopotamie, 5000 ans avant Jésus-Christ, qui montrent un processus et un produit très similaire à notre cottage cheese. Alors, c'est un processus dans lequel on va séparer le lait caillé du petit lait pour former un fromage qui va être en partie solide et une partie liquide. Alors, il y a trois procédés pour cailler le lait. Un procédé thermique, le contact avec de la présure, ou avec une liquide acide comme le citron. Alors, vous pouvez le voir pour vous-même, et c'est assez magique avec le citron. Quand je fais des scones, j'utilise quelques gouttes de citron dans le lait que j'aurais chauffé quelques secondes dans le micro-ondes, et vous pouvez voir le lait commence à former des petits grumeaux pour faire un bas beurre. Alors, c'est ça qui va aider les scones à monter pour donner ce côté très moelleux. Mais voilà, ça c'est le début d'un cottage cheese. Alors, c'est un fromage qui était omniprésent partout en Grande-Bretagne depuis des siècles, aussi sous le nom de bag cheese, un fromage de sac. Donc, on mettait le lait caillé de la vache ou du brebis dans un sac et on le laissait égoutter pour séparer la partie solide du petit lait. Mais tout Britannique va connaître ce fromage sous le nom de curds and whey, grasse et comptine. Little Miss Muffet sat on a tuffet, eating her curds and whey. There came a little spider who sat down beside her and frightened Miss Muffet away. Alors, certains attribuent ce comptine au médecin Thomas Muffet, qui l'aurait écrit pour sa petite belle-fille, Patience. Et ça raconte un moment quand Patience mangeait son petit déjeuner de curds and whey, mais elle est partie en courant quand elle a pris peur avec l'arrivée d'une araignée. Mais cette comptine, comme beaucoup qui racontent des histoires sombres de leur époque, fait peut-être plutôt référence à Marie, reine d'Écosse, qui a pris peur avec John Knox, un réformateur religieux dans le XVIe siècle. Les curds and whey étaient aussi connus sous d'autres noms comme le milk curd cheese en Grande-Bretagne, le clabber en Irlande et le leopard milk en Écosse. Mais le cottage cheese que nous connaissons aujourd'hui n'existe en Grande-Bretagne depuis le XXe siècle, avec le rajout d'un mélange de crème et de lait salé pour lui apporter son goût acidulé et de l'onctuosité. Alors, même si on associe le mot cottage avec les petites chaumières et les maisons de pierre si charmantes en Grande-Bretagne, en fait, le nom vient des États-Unis. Ce fromage, ayant traversé l'Atlantique avec les premiers colonisateurs, est devenu très populaire. Mais le nom cottage cheese a commencé à être utilisé au milieu du 19e siècle, car c'était un fromage fait à la maison. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, les Américains étaient encouragés à consommer plus de cottage cheese, comme alternative à la viande car c'est très riche en protéines. Et selon la marque Longley Farms en Grande-Bretagne, c'est le fondateur de l'entreprise Lieutenant Joseph Dickinson qui a découvert ce fromage sous le nom de cottage cheese sur un navire pendant son service dans le Pacifique. Et c'est avec son frère qu'il a fondé le Longley Farm dans le Yorkshire. Aujourd'hui, ils produisent une gamme de cottage cheese avec des parfums salés et sucrés et d'autres produits laitiers comme la crème fraîche. Mais le cottage cheese a malheureusement beaucoup perdu en popularité avec l'adoption de yaourts depuis les années 90 en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Alors, vous le trouverez dans les rayons yaourt dans certains supermarchés en France. Et comme c'est un produit peu calorique, vous pouvez l'utiliser pour remplacer d'autres fromages, comme dans un cheesecake par exemple, ce qui vous permettra de binger sur ce dessert avec une meilleure conscience. Zoé, maintenant, on arrive à un moment où normalement, je demande à mon invité son faux pas culinaire. Mais je crois que toi, tu as plutôt déniché quelques faux pas culinaires dans des émissions, dans des séries ou des films que tu as visionnés. Est-ce que tu veux bien en partager quelques-uns?
Alors, déjà, je ne vais pas faire la timide, je vais quand même dire, parce que moi-même, j'ai un faux pas culinaire.
Ah, super.
Parce que j'aime beaucoup cuisiner. Et les premières fois où j'ai essayé de faire une sauce hollandaise, vraiment, c'était très compliqué.
Oui.
Ça ressemblait finalement à du cottage cheese parce que elle ne s'émulsifiait pas et du coup, elle était toute. C'était vraiment dégoûtant. Et là, j'ai dû en rater peut-être deux ou trois. Et la quatrième, je l'avais réussi et je l'ai posée de traviole sur le sur le plan de travail et je l'ai fait tomber.
Oh, quel dommage. Oh mince.
Donc là, vraiment, je m'en voulais beaucoup. En plus, bon, tu imagines bien qu'à nettoyer dans une cuisine, c'est très compliqué. Mais effectivement, pour moi, le plus grand faux pas culinaire pour le moment que j'ai vu, en tout cas dans un film ou une série, il y avait un film qui s'appelle Good Morning England, mais c'est son nom français.
Ah, j'adore ce film.
Je crois qu'en anglais, il s'appelle peut-être Radio Rock.
Oui, Radio England, je crois. Oh, non, t'as raison. Oui, c'est sur un bateau.
Exactement, c'est sur un bateau. C'est un très bon film quand on aime comme moi cette période-là de la fin des années 60, cette ambiance-là, cette musique. C'est génial, c'est très drôle. Encore une fois, la bande de copains qui vit, c'est génial à voir. Et il y a une fille sur le bateau, c'est la seule fille sur le bateau. Et bon, l'époque veut que ce soit elle qui cuisine parce qu'à ce moment-là, on en est encore là dans les relations entre les hommes et les femmes. Sauf que c'est vraiment une très très piètre cuisinière et que quand elle leur sert un plat, ils sont incapables, juste en le regardant, de savoir ce que c'est et ce qu'ils vont manger parce qu'elle est vraiment très 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 nulle. Je me suis d'ailleurs posé la question, ça le scénario ne le dit pas, mais je me suis posé la question si elle faisait pas un petit peu exprès. Peut-être pour qu'on arrête de lui demander de cuisiner, mais en tout cas, c'est une très très mauvaise cuisinière. Et une autre très mauvaise cuisinière, c'est Bridget Jones.
Ah ouais.
Qui utilise pour son petit repas qu'elle est en train de concocter. Elle n'a pas de ficelle alimentaire. Et donc, elle utilise une ficelle ordinaire qui est bleue. Et il se trouve que du coup, toute sa cuisine, tout son plat devient bleu et pas du tout appétissant. Et ce n'est que le début des ennuis, puisque en plus, elle en fait quelques-unes des gaffes sur un seul plat. Donc, je pense qu'on pourrait lui donner le trophée de plus de faux pas culinaires dans un seul plat, dans une seule scène de cinéma.
Alors, ça me rappelle, en fait, ça me rappelle pas, mais je viens de penser juste à une scène aussi que j'adore. C'est dans le Full Monty. Tu sais, ce film où gagner des sous, ils décident de faire un petit show, ils vont se mettre à poil à nu. Et il y en a un qui est un peu en bon point et qui décide de faire régime. Et il y a une scène magnifique où on le trouve caché, je pense, dans son petit shed au fond du jardin, emballé dans du papier, on appelle cellophane, pour essayer de perdre le poids, mais en train de manger un Mars. J'adorais cette scène. Je pourrais tout à fait m'identifier avec.
C'est un très beau personnage en plus, il est très touchant
Oui,
aussi. Donc,
très touchant, ouais.
oui, puis les Anglais ont cette capacité-là dans leur manière de d'écrire et de traiter le cinéma et les séries. Ils ont une grande capacité à utiliser des symboles pour faire passer un message, davantage que d'expliquer quelque chose. C'est-à-dire que parfois, au lieu d'expliquer pendant une scène entière que quelqu'un n'a pas trop de sous pour finir le mois ou des choses comme ça, au lieu que ça se dise dans un dialogue, parfois il suffit
Ah oui.
d'un élément symbolique, en l'occurrence par exemple un plat ou quelque chose en rapport avec la cuisine, pour venir dire, souligner quelque chose de qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut, dans quel état il se trouve à un instant T, son état émotionnel par exemple, tu le disais, hein, ça peut être le thé très sucré, ça peut être la glace, ça peut être plein de choses qui viennent vraiment montrer qu'on a besoin peut-être à un moment donné de réconfort. Et je trouve que du coup la cuisine et les plats, ce sont des moyens très iconiques de planter le décor, en fait, de manière très sobre, très efficace, sans avoir à faire des tartines et à raconter en long, en large, en travers, l'histoire, d'un personnage ou sa problématique du moment. Et ça, c'est très riche.
Merci Zoé, c'est vraiment super, tu l'as vraiment bien dit. Et donc vraiment, je te remercie pour ce point de vue d'une Française sur la cuisine anglaise à travers le cinéma et la télévision. C'est vraiment passionnant. Un grand merci aussi d'avoir partagé, de m'avoir donné l'occasion de parler de cottage cheese. C'était un vrai plaisir et je vais mettre ton blog et j'invite tout le monde à aller voir sur mon site web La Crème Anglaise.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous pouvez trouver le cottage cheese dans la plupart des supermarchés dans le rayon yaourt. Je vous encourage également d'aller voir le blog de Zoé, The UK Binge Watcher, pour découvrir ses films et séries préférées. À très bientôt pour un nouvel épisode. So, cheerio and see you soon.